Bonjour à tous. Alors, le thème de ce matin, c'est mission et pauvreté. Et le Seigneur m'a mis à cœur, il faut vraiment que ce soit lui qui me le mette à cœur, parce que je ne suis pas un fervent partisan des appels, mais le Seigneur m'a mis à cœur de faire un appel à la fin du témoignage de Christine. Et si j'en parle maintenant, c'est pour que vous ayez la liberté, je vais appeler les gens à sortir de leur chaise, pas simplement à lever la main. Et pour des questions sanitaires, je vous demande simplement de bien respecter les distances, quitte à vous tenir dans le couloir, voire au fond de la salle, peu importe. Le but, c'est juste de sortir de nos chaises, de montrer qu'on... Et c'est aucune pression, c'est vraiment, vous verrez, c'est assez spécifique comme appel. Alors, pour introduire cette question de la pauvreté sous un angle très particulier et limité, j'aimerais d'abord proposer une première lecture dans Luc 4, versets 14 à 21. J'attends juste que le texte apparaisse. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » La deuxième lecture se trouve dans le livre des Actes, chapitre 3, versets 1 à 8. Il était 3 heures de l'après-midi lors de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Et on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main, elle le fit lever, ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement d'un bond. Il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant les louanges à Dieu. Amen. Le catholicisme médiéval a longtemps valoriser le pauvre. Il était figure du Christ abaissé et portier du ciel. Au XVIe siècle, à Genève, avant l'arrivée de Calvin, les réformés protestants interdisent la mendicité et ils ouvrent l'hospice général, institution qui existe encore aujourd'hui, pour lutter contre l'indigence. On donne du travail à ceux qui en sont dépourvus, on partage le travail, on distribue du pain et on loge ceux qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus travailler. Cette révolution du travail inscrit le travail comme une sorte d'éthique qui aujourd'hui, le travail partagé comme une sorte d'éthique aujourd'hui qui a disparu. Le mendiant, lui, se désolidarise de sa vocation divine de participer à l'effort commun. Comme le troisième homme de la parabole des talons, il en fuit celui-ci afin, au lieu de le faire fructifier. Et cette éthique du travail a longtemps contribué à, comme une sorte de détermination à la prospérité des pays protestants. Notre pays, la Suisse, qui a hérité d'une institution, d'une constitution qui a été élaborée en 1848 par les radicaux protestants, connaît aujourd'hui et conserve aujourd'hui cet avantage économique. Au XIXe, XXe siècle, parallèlement, elle jouit aussi d'une réputation de tradition humanitaire qui tend à s'effriter aujourd'hui. Oui, le peuple suisse est généreux. Quand il voit une photo de l'actrice Audrey Hepburn tenant un petit enfant africain affamé, le ventre rond sur ses genoux, pour le compte de l'UNICEF. Mais de là à prendre le risque d'aider un clochard puant dans ma rue, cela devient un très mauvais calcul en termes d'investissement. Not in my backyard, excusez mon anglais. Jamais dans mon arrière-cour, disent les anglo-saxons. C'est vrai, il faut que la pauvreté soit exotique. Quand elle est chez nous dans nos rues, cela devient beaucoup moins intéressant. Ça, c'est un petit constat sociologique. Et puis, après, il y a notre expérience personnelle. Au début des années 80, avec nos sacs à dos de routard, Anne et moi, nous avons vécu des expériences émouvantes avec la pauvreté. Avec ce paradoxe des plus pauvres, celui de la joie de nous accueillir, celui de la joie des visages, qui contrastait avec parfois nos émotions. De la jeune fille nous préparant une galette au feu de bois dans un gourbi des montagnes de l'Atlas, en passant par cette famille dans une sorte de casbah en bouse séchée dans le Kurdistan, ou alors dans cette tente dans le désert du Sinaï, nous avons été souvent émus de cet accueil et de cette joie. Et puis, il y a eu le premier choc, au sud du Caire, dans les célèbres montagnes de détritus qui sont déversées par des millions de kérotes, et où là, pieds nus, des enfants et des adultes trient les déchets pour essayer de revendre du carton, de la ferraille ou d'autres déchets en vue du recyclage et survivre avec cela. Nous nous étions mis en tête, depuis la Suisse, d'apporter des stylos, des crayons de couleur, des cahiers aux enfants de ces fameux chiffonniers du Caire où œuvrait à l'époque la fameuse sœur Emmanuelle, que certains se rappellent un peu, qui était une véritable leçon de christianisme pratique. Mais là, nous avons vraiment eu un choc. Là, nous avons vraiment eu le sentiment d'impuissance face à la hauteur du défi. Et puis, c'est pour peut-être la première fois cette parole de Jésus aux disciples dans Marc 14, « Les pauvres, vous les avez toujours avec vous », comme une fatalité avant le rétablissement du royaume où toute larme et toutes souffrances seront effacées. Et c'est probablement ce paradoxe entre cette pauvreté et cette joie qui nous a habités pour accueillir un trimardeur, un clochard, dans une petite chambre qu'on avait sous un toit, et dont l'odeur, une fois qu'il en avait s'essuyé de transpiration, me perce encore les tympans. Plus tard, avec les enfants, on a fait cette tradition d'accueillir un réfugié à la table de famille de Noël, devant mon père, patriote suisse et sympathisant UDC mesuré, ou encore en logeant dans une chambre de notre chalet pendant 3 ans un garçon de ferme qui avait été renvoyé pour raison d'âge par ses patrons. Ces exercices de compassion, le Seigneur s'en est servi pour nous utiliser avec l'expérimentation de projets d'évangélisation et de projets humanitaires à Hunedoara en Roumanie et la création de l'association de Maison du Père qui aura 20 ans l'année prochaine, je viens de m'en souvenir. Toutefois, c'est une chose d'expérimenter le service chrétien, d'aller une semaine ou deux faire des camps avec des enfants défavorisés ou de pratiquer des actions de solidarité. En février 2007, à la faveur de l'ouverture à la Roumanie de l'espace économique européen et à l'abolition des frontières de Schengen, une semaine après, nous avions déjà des Roms dans certaines devantures de nos magasins ou d'autres qui vendaient des montres en or et en toc sur le pont Bessières. Je me rappelle toujours mon chef qui s'est fait avoir. Alors là, nous sommes dans ce que l'essayiste et philosophe Pascal Bruckner, dans son livre « La maison des anges », appelle la marchandisation de la misère, avec parfois un grand professionnalisme et un marché très bien organisé. Un peu les Oliver Twist du XXIe siècle. En 1994, lors du premier voyage en Roumanie à Hunedoara, donc bien avant la création de notre association, nous étions avec 13, j'étais avec 13 jeunes, ou 12 jeunes, je ne sais plus, et nous avions l'habitude de prendre toujours la même rue pour rejoindre notre logement, et probablement à la fin de nos 5 jours sur place à Hunedoara, tout d'un coup, nous avons rencontré au bas d'un immeuble un jeune homme paralysé, paralytique, mais aussi déficient moteur cérébral. Alors, devant le choc de la situation, la dureté de la situation, nous avons rempli chacun sa corbeille de généreux billets de francs suisses, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas changer, à part des dollars et des marques allemands, c'était impossible, à part peut-être au marché noir. Et quand nous avons fait ensuite 100 mètres, qu'un s'est retourné, il a dit, mais regardez, et en effet, il y avait des gars qui retransportaient le paralysé avec la corbeille remplie de francs suisses. Et là, on a dit, c'est pas possible. Alors, on a fait un 100 mètres communautaire, proche des 10 secondes au 100 mètres, et nous les avons pas, franchement, ils avaient disparu. C'est cette tension entre compassion et parfois exaspération, et toutes les foules de questions qui sont les nôtres, qui probablement devaient habiter Pierre et Jean quand ils montent au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. Cet homme boiteux, ils le connaissaient. Tous les jours, quand avec Jésus, combien de fois ils ont suivi Jésus pour aller à la prière du temple. Donc, ils savaient. Et pourquoi Jésus ne l'avait-il pas guéri alors qu'il en a guéri tant d'autres? Ça aurait fait une monstre publicité pour le ministère de Jésus. Tout ce genre de questions nous amène quand même à réaliser qu'il y a un avant Pentecôte et un après Pentecôte. Et chapitre 3, que le début du chapitre 3 que nous venons de lire, se situe tout de suite après le récit de la Pentecôte. Alors, il y a d'abord cet échange de regard, celui d'un homme qui n'attend que le versement d'une aumône, et pour lequel Pierre et Jean lui disent « Mais regarde-nous !» Et ils se fixent l'un et l'autre. Et je crois que Dieu veut à la fois nous regarder droit dans les yeux, mais aussi regarder le pauvre droit dans les yeux, pour le faire quitter cette tendance à la misère qui, elle, est comme une sorte de lien spirituel. Donc il y a cet échange de regards, ce boiteux rempli de tristesse, et puis, à un moment donné, il y a cette parole, nous n'avons ni argent ni or. Nous n'avons ni argent ni or. Et c'est bien souvent le cas de nos missions chrétiennes. Face à l'ampleur des besoins qui se présentent à nous, on se dit, mais Seigneur, nous n'avons ni argent ni or. Et Pierre et Jean sont dépourvus de moyens. Mais en plus, Jésus n'est plus là. Seigneur, où es-tu pour répondre à ce besoin, à cet homme indigent? Pas d'or, pas d'argent, pas de Jésus, mais la seule chose que j'ai, je te le donne. La seule chose que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et il n'y avait pas les conditions sanitaires, il pouvait le toucher et il s'est levé. Et voilà que Pierre et Jean réalisent que la parole que Jésus a donnée dans sa leçon inaugurale, sa prédication inaugurale à la synagogue de Nazareth, de son enfance, voilà que cette parole, ils l'expérimentent aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur, et nous aussi, nous pouvons dire aujourd'hui, comme Pierre et Jean, l'Esprit du Seigneur est sur nous. Il nous a oint pour annoncer la bonne nouvelle, The Turning, dernière semaine d'octobre, pour délivrer le pauvre de leur prison, pour proclamer leur délivrance, pour ouvrir les yeux des aveugles et les introduire dans une nouvelle dimension, pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de jubilé, une année de grâce, une année d'accueil, une année de liberté. Je crois que c'est cette année d'accueil et de liberté dans laquelle le Seigneur veut nous faire entrer à nouveau aujourd'hui. Ce matin, pas seulement ce matin, mais à chaque fois que nous rencontrerons une situation où nous n'avons ni argent ni or et pas les moyens. Mais nous n'avons qu'une seule chose, l'onction qui était sur Jésus, elle repose sur nous. Et il s'agit de la réactiver. C'est ce que veut nous dire ce matin le Seigneur, au verset 21, aujourd'hui tout est accompli, tout est accompli. Nous avons reçu la voiture qui est l'œuvre de la croix de Jésus-Christ en nous, mais qui est aussi vraiment l'œuvre rédemptrice sur le monde à la croix. Nous avons reçu le moteur qui est la résurrection de Jésus et la victoire sur la mort. Nous avons reçu la clé qui est la puissance du Saint-Esprit, il nous faut juste tourner la clé. Alors ce matin, j'aimerais donner la parole à Christine pour un témoignage, et puis ensuite nous prierons.
Bonjour tout le monde. Alors je vais vous raconter un bout de ma vie, un petit bout, et puis par rapport à ce qu'il a apporté François, ben, ça va aller vraiment dans ce sens-là. J'avais reçu il y a quelques années une vision pour partir en République dominicaine. Alors tout de suite, quand on dit République dominicaine, on dit Punta Cana, hein, je pense. Mais c'était vraiment pas là que Dieu m'a envoyée. Et puis j'étais toute seule et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse là-bas? Je ne connais même pas ce pays, c'est loin. Et puis, c'était pas vraiment ce que je... Je me posais vraiment des questions, qu'est-ce que j'allais faire là-bas. Puis le Seigneur a ouvert tranquillement toutes les portes dont j'avais besoin pour pouvoir partir là-bas. Alors, on est parti qu'avec deux femmes. On a commencé avec mes pasteurs, parce que je les ai informés par rapport à tout ce que j'avais vécu avec Dieu dans ma chambre. Et puis, ils m'ont dit, Christine, il faut que tu te lèves et que tu partes. Et puis, on est derrière toi. Alors, je suis partie pour la première fois en République dominicaine, dans un village où le Seigneur a vraiment m'a guidée, où je devais aller. C'était à la frontière de Haïti, qui s'appelait Kachon. C'est un petit village où il n'y a rien du tout. Où l'église, il y avait une toute petite église, et cette église, il n'y avait plus personne dedans. Le pasteur avait demandé sa mutation pour partir, parce qu'il en avait marre. Ça faisait des années qu'il était là, il n'y a rien qui se passait. Et il priait, et il priait, et il n'y avait rien qui se passait. Et quand je suis arrivée dans ce village, où j'ai été dans son église, je lui ai dit, c'est là que je dois vous rencontrer. Il m'a regardée, et puis il m'a dit, je vous attendais, le Seigneur m'a dit qu'il envoyait une femme pour moi. J'ai dit, ok, génial. J'ai dit, ben, me voilà. J'ai dit, la seule chose, c'est qu'il ne m'a pas dit d'aller dans votre église. J'étais chez une personne, chez l'habitant qui m'attendait. Et le Seigneur m'a dit, tu ne vas pas travailler dans l'église, tu vas être en dehors de l'église. Donc, il y avait un immense jardin où on a pris des chaises. Vous savez, c'est vraiment un petit bonheur la chance. On n'avait que des chaises en plastique. Et ce jour-là, le pasteur, il a fait la publicité pour que dans le village et les villages voisins, ben, ils puissent venir pour venir, c'était un samedi, toute la journée, ça commençait après le repas. Et le Seigneur m'avait mis à cœur la guérison. J'ai enseigné sur la guérison. Et puis, à un moment donné, j'ai senti au plus profond de moi que je n'étais pas venue que pour faire ça, j'étais venue aussi pour prier pour eux. Alors, à un moment donné, j'ai appelé le pasteur. Et puis je lui ai dit, vous venez avec moi, on va faire un appel, Dieu va guérir. Puis il est venu, puis on a commencé à prier, et il y a eu beaucoup de guérisons. Il y avait à peu près 80 personnes cette fois-là. Et je me suis dit, wow, on n'était que deux femmes, hein, deux petits bouts de machin là. Je me suis dit, ah, Dieu veut vraiment faire des grandes choses dans ce coin, en tous les cas de République dominicaine. Et puis, ça s'est passé, il y a eu beaucoup de guérisons et ça m'a encouragée de dire, si je n'avais pas répondu oui, Seigneur, je n'aurais peut-être pas vécu ça. Et puis, je suis re-rentrée en Suisse, j'ai partagé ça avec l'Église, mais le Seigneur m'a dit, j'en ai pas fini avec ce village. Je dis, ok, il va falloir y retourner. Et la deuxième fois, le sujet de prière qu'il a mis sur mon cœur, c'était la famille. J'ai retourné voir le pasteur et je lui ai dit, il m'a dit, tu viens dans l'Église? Et j'ai dit, non. Le Seigneur m'a dit encore dans ce jardin. Et ce jour-là, il avait fait de la pub parce qu'il savait que je venais avec celle qui me traduisait à chaque fois. Et puis, ce jour-là, il y avait presque 200 personnes. Il n'y avait plus de chaises. Les gens s'asseyaient par terre. J'ai fait « Waouh, mon Dieu, c'est impressionnant hein, quand on n'a jamais fait ça. » Et puis, on a enseigné sur la famille, sur l'amour. Et ce jour-là, je vous jure, j'avais jamais vu ça. Les gens tombaient à genoux et se repentaient. C'était impressionnant. Les gens se repentaient. Ils se demandaient pardon entre mari et femme. Il y a eu un temps de ministère et l'onction, le Saint-Esprit est venu guérir des cicatrices qui étaient profondes entre les couples, les enfants, même des ados qui étaient devant. C'était vraiment incroyable ce que j'ai vécu. Et je suis repartie. Et j'ai dit, bon, ben là maintenant c'est bon. Et le Seigneur m'a dit, non, tu vas encore y retourner. Alors, j'y suis repartie, toujours, on était deux. Et la dernière fois que j'y suis allée, enfin, l'avant-dernière, j'y suis allée après beaucoup plusieurs fois. Et là, il m'a dit, maintenant, tu vas aller dans l'église. C'est maintenant le temps. Et l'église était remplie et elle était trop petite pour pouvoir faire venir tout le monde. Les jeunes étaient revenus de village à côté. C'était impressionnant de voir l'étape, comment Dieu a conduit ça. Et comment il est intervenu. J'ai dit, c'est incroyable. On n'a pas un Dieu qui dit juste, tu vas là-bas et puis voilà, non. J'avais rien, je ne sais pas faire. Je me disais, je ne suis ni pasteur, ni rien. Mais j'ai juste ma foi qui dit, oui, j'y vais. Mais quand on y va, on vit tellement de belles choses que notre foi, elle ne reste pas petite, mais elle grandit. Elle devient solide, elle s'affermit. Et puis elle veut encore plus et encore plus. Et je vous jure que vraiment, je veux encore plus. Plus. Et dans toutes ces étapes que j'ai vécues en République dominicaine, l'église a été démolie, elle a été reconstruite avec tous les gens du village, et elle est devenue immense. Et aujourd'hui, il y a un groupe de jeunes, il y a un pasteur qui ne veut plus être muté, qui veut rester dans le village. Elle s'est multipliée, et dans les villages d'à côté, d'autres églises sont venues, et d'autres églises, il a pu se multiplier. Et je me disais juste, waouh, quoi. On doit vivre ça. Il faut qu'on vive ça. Vous savez, on dit la mission, peut-être que je suis missionnaire pour partir. Oui, j'ai vécu beaucoup de choses en Inde, en Birmanie, partout où je vais, parce que je veux voir Dieu agir. Je veux voir des miracles. Je veux pas seulement lire pour lire. Je veux lire et après me mettre en action. Je veux voir Dieu agir dans ma vie. Je veux voir Dieu faire des grandes choses, pas des petites choses. Et vraiment, je pense que dans tout ce que je fais aujourd'hui, dans tout ce que j'entreprends, que ce soit même dans le groupe de jeunes ces derniers temps, on vit des choses qu'on n'a encore jamais vécues, je vous promets. On vit des choses incroyables avec nos leaders, avec nos jeunes. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, même dans l'église. Moi, je sens comme une nouvelle saison qui est en train de s'ouvrir, des choses nouvelles. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais moi, je ressens ça. Et vraiment, dans cette église, on doit se lever aujourd'hui et dire, Seigneur, je veux beaucoup plus que ça. Je veux beaucoup plus que ça. Et vraiment, c'est ce que je souhaite de tout mon cœur. C'est vraiment le dépôt que je veux vous donner. Demandez plus que ça. Alors, je vais vous laisser avec un verset qui m'a toujours tenu à cœur et qui enlève mes peurs et mes craintes. Je vais vous le laisser, je ne sais pas si on peut l'afficher. C'est le psaume 91. Depuis que je me suis mis, j'ai dit « Oui, Seigneur, j'y vais ». C'est ce psaume, à chaque fois que je pars ou que je dois entreprendre quelque chose qui me semble grand, puis moi toute petite, eh ben, c'est ce verset-là. « Seigneur, oui, je m'appuie sur toi, je me repose à l'ombre de tes ailes ». Et vraiment, ce verset, je le vis tout le temps, il prend vie dès que je le prononce. Je sais pas si c'est moi, mais dès que je dis les peu de paroles qui se dit, je le vis et il se met en place. Et la parole, c'est ça, je crois. Elle ne doit pas être que lue, elle doit être vécue. Et ça, c'est très important dans nos vies aujourd'hui et avec tout ce qu'on vit. Je pense que voilà.
On applaudit le Seigneur. Tu restes là.
Ouais.
J'aimerais que nous prions ensemble.
Je peux le lire.
Pardon ?
Je peux le lire.
Ah oui, vas-y.
Et au début. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne t'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il te portera sur tes mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspie. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Mais je vous le donne. Pardon.
Amen. Nous voulons prier. Seigneur, combien de fois j'ai passé tout droit devant celui qui exprime un besoin. Par manque de temps, par mes propres préoccupations, parfois aussi avec la honte de démissionner, de ne pas savoir m'arrêter. Et puis pourtant, tu as déposé sur moi l'onction de Jésus. Et Seigneur, ce matin, nous voulons ensemble entrer dans cette année de grâce, dans cette année du jubilé, dans cette année où les esclaves sont libérés et où il y a une nouvelle dimension du royaume de Dieu qui est annoncée, proclamée et vécue. Et merci parce que tu as envoyé le Saint-Esprit, parce que tu as envoyé sur nous l'onction de Jésus, nous pouvons vraiment entrer dans cette parole de Pierre vis-à-vis du paralytique. C'est vrai que nous n'avons ni argent ni or, peut-être même des difficultés, mais nous avons ce que nous avons, nous le donnons au nom de Jésus-Christ, aux pauvres, à celui qui vient vers nous pour nous exprimer un besoin, peut-être différent de ce que nous prêchons ce matin, nous pouvons le regarder dans les yeux et lui dire « Je n'ai qu'une chose, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche, retrouve ta dignité et ta liberté. » Et j'aimerais appeler ceux qui aimeraient pour le Seigneur se tenir à sa disposition dans cette dimension. Je pèse bien mes mots. Je pense qu'on a aussi certains, aussi une peur du pauvre. On n'a pas forcément de l'expérience et je remercie le Seigneur pour ce témoignage ce matin. Vous avez vu qu'avec Christine, il suffit d'écouter le Seigneur, de se tenir près de lui pour tout d'un coup entendre quelque chose d'inconfortable qui nous fait sortir de notre zone de confort, mais qui fait que il y a une obéissance. Et j'aimerais vraiment demander à ceux qui sont d'accord d'écouter et d'entrer dans cette obéissance de la foi pour pouvoir ensuite expérimenter avec notre petit grain de moutarde de la foi. N'enterrons pas notre talent, mais laissons-le fructifier. Alors j'appelle les gens à se lever très rapidement. Et ensuite, nous ferons encore une démarche de foi. Merci aux gens qui désirent répondre à cet appel de se lever, de se mettre dans les rangs ou de venir devant en respectant les distances sanitaires. Ouais, je vous demande de sortir de vos rangs, hein, pas seulement de vous lever. Merci Seigneur. Voilà. Est-ce que Nico, tu peux me mettre le texte de Luc 4? Voilà. Alors, on va reprendre depuis le verset. Attendez, je vois pas bien. 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et puis, je vous propose de le confesser, mais très fort quand même, hein, devant le Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Et puis, on continue le texte après. Alors, tu enchaînes tout de suite le texte derrière, parce qu'il n'y a qu'un verset là. Ok. Seigneur, nous nous engageons à travers cette confession de foi, en disant tous ensemble, l'Esprit du Seigneur est sur moi, plus fort. Alors là, vraiment, le Seigneur, il vous entend, mais l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que nous entendons est accomplie sur nos vies. On répète, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que nous venons d'entendre est accomplie sur nos vies. Eh bien, merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu nous rends faibles, vulnérables, fragiles, mais que ta force est en nous et que la foi, nous pouvons tourner la clé dès aujourd'hui pour entendre et comprendre, mais aussi agir en ton nom. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Amen. Merci beaucoup. Je vous laisse. Non, restez peut-être comme vous êtes. On va juste passer un chant qui va dans le sens de l'appel. Et ensuite, on vous libère. Ah oui, c'est que je voulais que tu pries.
Bah oui, ouais.
Excuse-moi.
Ben Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui tu as parlé. Tu as parlé aux tous les cœurs qui se sont levés. Je prie que maintenant le Saint-Esprit passe dans les rangs, un par un, que vous soyez touchés de sa grâce, que vous soyez touchés par tout ce qui a été dit, que vous soyez maintenant un instrument puissant dans ses mains, que ce soit à l'église ou dans votre travail ou à l'extérieur. Je prie un bouleversement dans votre vie. Je prie plein de choses nouvelles maintenant qui vont s'accomplir, Seigneur. Tu vois, les gens sont debout. Ils répondent à l'appel, Seigneur. Mais nous ne voulons pas que simplement ça soit un appel. Nous voulons une réalité maintenant, aujourd'hui. Que tout ce qui a été planté, Seigneur, puisse être arrosé maintenant au nom de Jésus. Que les foi grandissent. Oh Seigneur, merci pour ce que tu vas faire aujourd'hui. Merci, Seigneur. Je bénis chaque personne au nom de Jésus-Christ ici présent. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Merci pour les fruits qui vont venir. Merci parce que ce n'est qu'un début. Tu as encore beaucoup de choses à faire avec nous. Au nom de Jésus. Amen.
Je veux aussi dire une chose. Quand vous vivez une expérience à partir de maintenant, je crois que c'est bien qu'on s'encourage les uns les autres et que vous puissiez dire au pasteur, j'aimerais témoigner, j'ai vécu cette foi en action dans telle circonstance et que vous puissiez prendre la parole. Je crois qu'on a besoin les uns les autres de nous encourager, c'est ce qu'on appelle le petit doigt de Dieu, de nous encourager. Peut-être que c'est minime, vous dites ça ne vaut pas la peine, non, faites-le. Dites-le ce que vous avez vécu avec Dieu dans cette dimension que nous avons parlé ce matin, pour que vous verrez, le doigt de Dieu, ça devient une main de Dieu sur notre communauté, et ça vient ensuite le bras de Dieu sur notre communauté, un peu à l'image de ce que Christine nous a partagé dans cette église de la République dominicaine. On chante ce chant, soyez bénis.